Je poursuis et termine cet arrache-cœur 512 avec un ouvrage d'Alessandro Mercuri intitulé Le dossier Alvin, sous-titré Enquête, archives, photographie, 23 x 17 cm, 176 pages. C'est un ouvrage qu'on peut trouver aux éditions Art et Fiction, qui est une maison d'édition basée à Genève et à Lausanne, donc maison d'édition suisse, dans la collection Repacifique. Alors j'avais déjà eu l'occasion de présenter un ouvrage d'Alessandro Mercuri, c'était en 2011 aux éditions Léo Schir, un ouvrage qui s'appelait Peeping Tom, qui était un essai. On se retrouve ici également dans le cadre de l'essai, on n'est pas dans le roman, encore que Alessandro Mercuri ne se refuse absolument aucune possibilité dans cet ouvrage qui est richement illustré. C'est un très bel objet qui va nous entraîner dans une forme de rêverie aquatique. On revient un peu aux méduses d'Antoine Bréa, on va rencontrer ou découvrir ce qu'est ce fameux, ou qui est ce fameux Alvin, puisque le titre au départ ne nous laisse pas nécessairement savoir s'il s'agit d'un individu ou d'un objet. Donc on va rapidement comprendre que l'Alvin en question est un batiscaf, un submersible qui appartient à l'armée américaine, la US Navy, la marine de guerre. Son vrai nom c'est Alvin DSV-2. Et ce batiscaf a fait de très nombreuses plongées. Tout nous est rappelé dans une annexe qui revient sur les missions qui ont été faites par Alvin depuis sa création jusque, je crois, le mois d'avril 2014. Donc il a fait plus de 4702 missions. Et tout cela a commencé en 1964, au cœur de la guerre froide, puisque Alvin a été pensé et conçu au départ, justement, pour lutter contre l'armée soviétique et découvrir les manœuvres que cette armée pouvait décider de mettre en place dans les océans. Mais pour arriver à Alvin, Alessandro Mercuri va nous entraîner dans de nombreux mouvements oscillants qui nous font démarrer depuis la mort de Kennedy et la diffusion par la Columbia du film de Stanley Kubrick « Doctor Strangelove ». On démarre avec cela et on va, à partir de ces prémices, aboutir à la découverte de ce fameux Alvin, de toutes ses missions et de tout ce qu'il a pu entraîner comme conséquence, aussi bien dans l'évaluation des tensions entre les États-Unis et l'URSS, mais également dans la découverte des fonds sous-marins, puisque sous couvert de missions évidemment ultra-secrètes, confidentiels, qui sont secret défense, il y a des paravents qui sont destinés à faire croire, et parfois légitimement, que Alvin plonge dans les océans tout simplement pour analyser et observer les fonds sous-marins et les très nombreuses variétés d'animaux qui y habitent. Donc tout cela va nous être présenté dans l'ouvrage. On va y découvrir des créatures effectivement extraordinaires qui sont placé sur le même plan que d'autres créatures tout aussi extraordinaires et qui s'annonçaient dès l'origine, à savoir les stars de Hollywood et principalement Rita Hayworth, dont on sait que elle a un destin lié à la bombe atomique, puisque son nom a été directement associé à des essais nucléaires, à la bombe qui était utilisée par les États-Unis. Et donc l'explosion, la manière dont une star explose sur un écran, la manière dont une bombe explose au contact du sol, et la manière également dont les fonds sous-marins sont parfois en mesure d'exploser par la montée des laves souterraines, tout cela est placé sur le même plan par Alessandro Mercuri, qui se plaît à entremêler de manière extrêmement vicieuse et en même temps jubilatoire la réalité, l'imaginaire, le mythe, la fiction, la construction totalement fantasmatique de tout ce qu'il a ramassé comme information. On dit qu'il essaie de construire une forme de Wikileaks totalement inventé, fictif, irrationnel. Et l'objet joue avec Avec le plaisir, là aussi, de la construction, enfin, de ce dont je parlais tout à l'heure par rapport au texte d'Antoine Bréa, c'est que il entraîne subrepticement, hein, comme la pieuvre pourrait le faire, hein, elle vient d'abord vous enrouler, hein, d'un de ses tentacules, et puis vous vous laissez finalement entraîner en disant on verra bien où l'histoire va me mener, et puis petit à petit vous vous rendez compte que ce ne sont pas un mais six tentacules qui viennent vous encercler, et vous êtes parti dans une course un peu effrayante et effroyable, et en même temps totalement fascinante dans les fonds sous-marins. Alors, par exemple, il cite cette phrase de George W. Bush, dont je n'ai pas vérifié si elle était véridique ou pas. Je sais que les hommes et les poissons peuvent coexister pacifiquement. Enfin, donc, on est là dans la pure, hein, inventivité fictionnelle, et ça donne quelque chose de véritablement fascinant. Enfin, moi, j'ai lu le texte véritablement d'une traite, malgré son caractère parfois un peu, j'irais pas hermétique, mais scientifique, hein, puisqu'on a le rapport de mission d'Alvin qui nous a proposé, les carnets de bord d'un certain nombre de missions qu'il a pu exécuter, notamment dans les années 60. On y voit des cartes, on y voit des clichés, on y voit des rapports confidentiels. Et la manière dont Alessandro Mercuri mêle les documents, la photographie, les photomontages, si vous suivez attentivement les informations qui vous sont proposées par les Danex, et notamment les crédits d'image, vous découvrez qu'un certain nombre de clichés sont des montages de l'auteur, mais d'autres viennent véritablement de l'US Navy, montrent la manière dont le bathyscaphe a été utilisé pour découvrir de nouvelles espèces, et donc on a des clichés qui viennent, on va dire, d'institutions officielles américaines chargées de l'exploration des fonds sous-marins pour effectivement des découvertes de ce type. Donc le texte constamment joue avec la crédulité du lecteur. Alors moi, je suis extrêmement bon public. Je ne cherche jamais véritablement à démêler le vrai du faux. Au contraire, je trouve que plus on mélange et plus on entremêle le vrai et le faux, et plus j'y prends un plaisir absolu, parce que pour moi, c'est pas le crédit du texte qui est en jeu, c'est la manière dont il arrive à faire se mouvoir un certain nombre d'engrenages et de possibilités littéraires, et comment de cette rencontre, au sens presque métaphorique du terme, hein, rapprocher deux éléments pour d'un rapprochement le plus lointain possible, on fait jaillir une étincelle, hein, c'est quand même le concept même de la métaphore telle que les surréalistes l'ont définie. Plus les objets sont éloignés, plus l'intensité lumineuse va être exceptionnelle, et c'est ce que fait, je trouve, Mercuri, c'est d'aller puiser dans énormément de thématiques différentes, de domaines artistiques opposés, de domaines même au sens le plus absolu du terme, pour de tout cela créer un texte qui finit par nous faire douter ou vaciller sur nos certitudes en disant « Et si c'était effectivement ce qu'il raconte, si ce qu'il est en train de nous mettre sous les yeux était une part de la vérité ?» Alors il y a un petit côté théorie complotiste, hein, qui peut surgir ici et là en se disant « Mais finalement la US Navy est partout et tout ce qui a été fait, tout ce qui a été inventé, le film de Stanley Kubrick, la recherche des fonds sous-marins, le rapport avec la musique également, puisqu'on va découvrir qu'il y a des accointances troublantes entre la musique, les fonds sous-marins et les recherches d'Alvin, les cartes d'autrefois, les récits mythologiques, la création de Pygmalion et Galatée, enfin tout cela finalement finit par créer une sorte de fresque, hein, qui prend un sens quasiment légitime parce que le crédit de l'ouvrage lui apporte la possibilité d'être au monde. Et moi, c'est vraiment cet aspect-là du texte qui me séduit le plus, parce que là encore, il ouvre en fait tout simplement des portes que la segmentation ou la compartimentation des différentes thématiques ou des différents domaines écarterait d'emblée, en disant ben, ça n'a rien à voir ensemble, on ne va pas mélanger tout ça. Et Mercuri, lui, ne se prive pas, justement par ses rapprochements, d'ouvrir des portes qui peuvent être uniquement des portes fictionnelles ou imaginaires, mais c'est justement cette perspective-là qui est vertigineuse. Il y a des photographies d'animaux sous-marins, mais qui sont merveilleux. Enfin, ces animaux extraordinaires, dont je ne sais pas s'ils existent ou pas, à la limite, c'est pas très très grave. Mais le simple fait que le texte d'où les propose, hein, il y a un galatéiéti qui est absolument magnifique, qui ressemble un peu au homard, mais il a comme une espèce de plumeau avant les pinces. Enfin, on est presque là aussi dans l'image de la star hollywoodienne hein, qui déroule sur ses bras enfin, les longs manchons de ses gants. Enfin, il y a presque une mise en scène un peu hollywoodienne de tout cet univers qui laisse penser que le Galatéyetti, s'il n'existait pas, devrait être inventé après la lecture de l'ouvrage. Pourquoi priver le monde d'une créature aussi extraordinaire? On a aussi un vers de Pompéi. Magnifique. Donc voilà, c'est là où je trouve qu'il y a une véritable jubilation dans la lecture, parce que ça se lit avec la même délectation et la même intensité qu'un roman. Enfin, on est véritablement hein, emporté par les inventions et l'inventivité d'Alessandro Mercuri. C'est un texte qui se veut aussi un véritable objet en soi, hein, par la richesse de sa documentation et de son illustration, mais je vous laisse le découvrir car l'émission va se terminer. Donc je vous rappelle les références de l'ouvrage. Le dossier Alvin, enquête, archives, photographie, 23 x 17 cm, 176 pages, d'Alessandro Mercuri est disponible aux éditions Art et Fiction dans la collection Repacifique.